Phil Good, le technicien assigné au SAS. Adenor Kirishi, la jeune technicienne amatrice de pierres rares. Ralato Uli, l'impitoyable lieutenant du contre-amiral Pophéus. Le contre-amiral lui-même, rendu imperméable au manteau suite à un accident terrible ayant coûté la vie à de nombreuses personnes. L'aventure ne fait que commencer. Chapitre 2, le Raid Universe, deuxième partie.
Raid Universe. Chapitre 2. Au commencement était la flotte.
Par le hublot de la navette de transport, Ben Kana regardait la voûte étoilée de l'univers où l'Exode allait bientôt s'engouffrer. Elle reconnaissait de nombreuses configurations d'étoiles parmi celles qui se présentaient à ses yeux. La formation de Talbot, au nuage de gaz pouponnière d'étoiles, le plus gros gisement de Talbium 3 se trouvait là-bas. Les deux somptueuses supernovas d'Helmut 4, et bien sûr, les étoiles voisines du soleil de Materwan, à quelques centaines d'années-lumière, Adenor et Octava. Certes, pour un commandant de vaisseau spatial, c'était utile de savoir reconnaître les constellations, bien qu'à la première transition multispatiale, ce décor allait changer radicalement. Ce n'était cependant pas pour ses connaissances stellaires qu'elle se retrouvait ici, mais bien pour ses capacités de chef, démontrées amplement durant la révolution Castix, où elle s'était alors couverte de gloire. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Les plus hauts faits d'armes de la période avaient impliqué, de près ou de loin, les personnes qu'elle allait rencontrer. En fin de compte, la commandant Aurora Benkana se dirigeait vers des gens de sa trempe. Au loin, se dessinant sur le clair de terre de Materwan, on pouvait apercevoir les silhouettes de cuirassés qui surveillaient, discrètement, le bon déroulement des opérations pour le compte du gouvernement Castix. Prudence est mère de toutes les sûretés, comme on dit. La navette de Benkana amorça son virage pour se présenter dans l'axe de la piste d'appontage du transporteur numéro 1. Ce faisant, elle étala sous les yeux du commandant les feux de la station d'accueil principale de Materwan, Maman Lolo. Auréolée de milliers d'étoiles bien plus animées que celles de la voûte spatiale, Maman Lolo brillait comme un phare où grouilleraient des centaines d'insectes attirés par sa lumière. Présentement, les véhicules de transport, ravitaillement, surveillance, réparations auxquelles s'ajoutaient les vaisseaux en approvisionnement eux-mêmes, qu'ils soient cargo, véhicules de tourisme ou de transport. La présence, accostée à deux de ces docks, de transporteurs de l'Exode, n'était évidemment pas faite pour en calmer l'activité. Les préparatifs du voyage allaient bon train. Après une cinquantaine d'heures de travail ininterrompu, on annonçait enfin pour proche la clôture de l'approvisionnement des transporteurs numéro 2 et 5. Ce serait ensuite le tour des numéros 1 et 3, puis celui des numéros 4 et 6. Le transporteur numéro 7 de Benkana terminerait la grosse semaine dévolue aux approvisionnements et le départ groupé de l'Exode devrait rapidement suivre. Il était dommage que seuls deux docks puissent être mis simultanément à disposition d'un événement d'une telle importance. Mais Maman Lolo ravitaillait plus des deux tiers du transport spatial de Materwan, et elle n'avait que quatre docks. Déjà, la seule présence de l'Exode avait décuplé l'activité de la seconde station d'accueil, celle de l'autre côté de l'orbite de Materwan, plus modeste, et qui arrivait tout juste à contenir le surplus avec un roulement frénétique de ses équipes. Un hangar emplit l'espace visuel du hublot et ramena Aurora Benkana à l'événement pour lequel il se déplaçait. La première réunion du conseil des commandants de l'Exode, les sept responsables des sept transporteurs enfin réunis. Suite à l'appontage et un salut réglementaire aux quelques soldats au garde-à-vous, on la guida vers un petit sas discret à l'écart de la zone des quais, donnant sur un long corridor qui filait au cœur du Léviathan de métal. Pas spécialement en avance sur l'horaire du rendez-vous, elle s'élança d'un pas sec et rapide. Une à une, les arches métalliques défilaient autour du commandant. Des militaires de garde en tenue d'apparat ponctuaient régulièrement son trajet. Ils faisaient partie du bataillon de ce vaisseau. Le lieu avait été investi par la sécurité et interdit au public, réservé pour l'arrivée des membres de la réunion. Enfin, plutôt pour ceux qui ne prenaient pas le transporteur tubulaire situé sur les flancs du vaisseau. Il faut dire que Benkana faisait partie de ces hauts gradés goûtant peu l'assistanat permanent dont faisaient l'objet les personnalités puissantes. Cela oscillait entre servilité de bande suiveur et attentions étouffantes de collègues trop protecteurs. Elle préférait le contact du sol, la rencontre des sons et des odeurs, même avec ses soldats anonymes figés dans le protocole. Il lui fallait ressentir le monde dans lequel et par lequel elle existait. Son ami, le colonel G.F. Hill, une des figures de la révolution Castix, ou le colonel Arlington, à l'origine du mouvement de la révolte, étaient de la même sensibilité. On ne pouvait pas comprendre le moral de ses troupes ou extrapoler la conclusion d'une bataille si l'on ne percevait pas les ambiances. Le couloir fit un coude à gauche.
« La salle est dans cette direction, mon commandant. »
lui indiqua, en la saluant, l'ordonnance placée stratégiquement à cet endroit. Poursuivant sa traversée, Benkana aperçut un second ordonnance à un croisement quelques mètres devant elle. Le soldat venait visiblement de renseigner un autre visiteur un instant plus tôt. Ne serait-ce pas ce mélange connu et indéfinissable de musc, de cèdre et d'ylang-ylang qui lui parvenait aux narines? Elle pressa le pas, son prédécesseur avançant plus lentement qu'elle. Il boitait de la jambe gauche suite à une grave blessure vers la fin de la guerre civile. Le coude du corridor passé, elle l'aperçut.
« Colonel, alors toujours tiré à quatre épingles ?»
lança-t-elle. John Fitzgerald Hill se retourna avec un sourire, faisant volter sa parka de cuir. Toujours en appui sur sa légendaire canne de bois sculpté, il leva un poing vengeur.
« Commandant Benkana, vous êtes la honte de l'armée, vous méritez le peloton d'exécution !»
L'ordonnance, debout derrière Benkana, émit un hoquet de surprise. Sans être décontenancé le moins du monde par les propos brutaux du colonel, le commandant se rapprocha en rétorquant.
« Si moi je mérite le peloton d'exécution, mon cher colonel, alors que méritez-vous ?»
Elle stoppa face à lui, ses yeux bruns dans les yeux bleus de G.F. Hill. La notoriété du colonel datait des mouvances anarchiques qui avaient remué le monde intellectuel et politique de Materwan il y a une vingtaine d'années. Et même s'il avait grandement changé, il en gardait plusieurs habitudes non protocolaires vis-à-vis de lui-même, de ses hommes ou de ses amis. Assez grand, mince, des cheveux ondulés noirs de jais surplombant un visage maigre, qu'une longue barbe parfaitement peignée allongeait encore plus. Ses yeux pétillants d'intelligence étaient auréolés de cernes bleu nuit, reliquat des longues soirées à veiller dans la clandestinité de la jungle pour préparer sa grande révolution populaire. En contraste avec cette existence de guérilla, G.F. Hill prenait systématiquement des allures de gentleman impeccable. Propre, chic, toujours le même parfum, une grande parka de cuir ciré et des manières de prince. Éclatant alors d'un grand rire commun, les deux amis tombèrent dans les bras l'un de l'autre, allant jusqu'à s'embrasser, ce qui choqua une seconde fois l'ordonnance, peu habituée à cette convivialité de la part de haut gradé.
Dis donc, tu as pris du poids depuis la dernière fois. Ne te dis pas que tu continues à te plaindre de ton petit bobo à la jambe pour avoir plus de Rubiano par pitié.
Le tensa Benkana. Le Rubiano est un plat typique des régions des plaines de Materwan, connu pour être délicieusement nourrissant.
Toi aussi, tu as pris des rondeurs, Ashtuka, mais ta poigne est encore solide. C'est bon de te revoir.
Lui répondit G.F. Hill tout en l'enlaçant à nouveau. Ashtuka signifiait petite sœur dans un dialecte inconnu sinon du colonel. Il avait donné ce surnom à Benkana il y a longtemps, durant la guerre.
Bien, poursuivons le chemin, ce n'est plus très long. Nous arriverons ensemble là-bas.
Avec plaisir, John.
Répondit-elle. Le commandant Benkana et le colonel G.F. Hill reprirent donc leur progression le long du corridor qui les amènerait bientôt à la réunion du conseil, bras dessus, bras dessous.
J'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre là-bas.
S'interrogea Benkana à voix haute.
À des retrouvailles de vieux amis, de vieux ennemis et de quelques inconnus que le virage pris par la révolution Castix a fait fuir. Voilà ceux que nous allons rencontrer.
Si c'était si simple, au moins Momomba sera également de la partie, on se sentira moins seul. Tu l'as revu récemment ?
Oui, il y a quelques mois, lors d'un grand rassemblement à la capitale. Militant pour l'égalité des droits des minorités. Tu ne seras pas surprise d'apprendre qu'il était en tête du cortège et qu'il haranguait la foule comme un chef.
Bien sûr, il a toujours été comme ça. Je me souviens de son attitude à la bataille d'El Mouta. La garnison d'en face nous a livré ses chefs et les clés après qu'il leur ait parlé pendant une heure au mégaphone.
Le colonel partit soudain d'un grand rire.
Sacré Momumba ! Sa force a toujours été de ne pas comprendre que certaines choses étaient impossibles. Et du coup, ça fonctionne. Je t'accorde qu'il est également un maître stratège peu commun et que son aide fut primordiale pour la révolution.
Mais dis-moi, John.
L'interrompit Benkana.
Comment comptes-tu aborder ta rencontre avec le colonel Sterling Price ? Et ne me dis pas que vous allez tomber dans les bras d'un autre.
Sterling Price s'est pris une raclée et je crois qu'il l'a admis. La bataille des monts Athos est loin et nous nous sommes croisés déjà une fois par hasard. À l'époque, on s'était promis de la refaire avec des pièces d'échecs. Je pense que nous allons en avoir l'occasion durant les prochains mois.
Tu prévois un voyage d'agrément ?
Sans qu'il baigne Cana dans un grand sourire.
Pourquoi suis-je certaine que ce ne sera pas le cas ?
Parce que tout simplement je viens de le dire, donc ça n'arrivera pas.
Et ils repartirent tous les deux dans un grand éclat de rire, interloquant les gardes tout le long du corridor. La première rencontre allait donc se tenir à bord du transporteur numéro 1. Après tout, cela pouvait paraître logique. C'était celui du général Décembre, plus haut gradé des commandants de l'Exode. La salle de réunion proprement dite était un quadrilatère métallique simple, encadrant une table circulaire destinée à accueillir une dizaine de personnes au plus. De dimension modeste, sans aucun hublot et seulement éclairé d'un néon circulaire fixé au plafond, elle n'en possédait pas moins un émetteur holographique permettant d'afficher des cartes juxtaposées. Un gadget en vogue dans les forces spatiales. Un lieu spartiate sans doute, mais obligeant à une proximité plus utile que protocolaire pour une expédition de cette envergure. Les décisions prises autour de cette table auront des conséquences sur plus de 3 millions de personnes. Ben Cana et Hill passèrent les plantons de garde, puis le sas étanche, et pénétrèrent dans la salle. Ils étaient évidemment les derniers. Autour de la table, installés dans des fauteuils de cuir noir, se trouvaient tous les autres membres de la petite assemblée. Le général Décembre était le commandant du transporteur, l'hôte de ces lieux. Dans la force de l'âge, c'était un des anciens généraux de la flotte royale qui avait prêté allégeance à la jeune république Castix avant d'être déçu par ce qu'il voyait, ou plutôt probablement ce qu'il n'espérait ne plus voir revenir, ainsi que le commandant Bazavetch à la tête du second transporteur. Les privilèges des nobles disparaissaient les uns après les autres, supprimé par une république pressée de donner des gages au peuple de Materwan, mais reniant ainsi la parole donnée aux anciens ennemis pour qu'ils déposent les armes. Sous la royauté, Bazavetch était baron. D'ailleurs, Ben Cana se demandait si ces personnalités du précédent régime n'avaient pas secrètement l'intention de le recréer sur la future planète rouge. Le colonel Sterling Price, commandant du 5e transporteur, portait également le titre de comte par alliance avec la famille Price. Mais c'était avant tout un brillant tacticien âgé, considéré par tous comme un maître dans l'art de la guerre, jusqu'à la fameuse bataille contre les guerrieros de GF Hill, qui anéantit son mythe et provoqua la déchéance de sa famille. Il ne semblait pourtant pas spécialement donner place à la rancœur contre Hill, et le regard qu'il lui lança était plus empreint de respect envers un valeureux adversaire qu'autre chose. Le vieux colonel n'était pas un royaliste fanatique, et on disait même qu'il s'était déjà heurté à plusieurs aspects injustes du système royal durant sa jeunesse. D'ailleurs, sur ces terres, le servage avait été aboli depuis plusieurs générations, et la famille Sterling était plutôt appréciée des différentes couches sociales. Le troisième transporteur était sous la responsabilité du commandant Momumba Arlington, un frère d'armes de Ben Cana et Hill. Il se fendit à leur intention d'un éclatant sourire de ses dents blanches, détonnant sur sa peau noire, ainsi qu'un petit signe de bienvenue amical de la main. Dans ses yeux, on sentait qu'il comptait bien plus tard fêter dignement les retrouvailles. Le dernier membre du cercle n'était pas militaire. Le commandant de vaisseau Runta, responsable du 4e transporteur. Cet homme était entré dans la politique et avait plusieurs fois été secrétaire d'État ainsi que ministre chargé aux affaires spatiales. En fait, c'était peut-être le seul personnage qui n'avait, semble-t-il, pas de raison évidente de prendre part à l'Exode. S'étant prudemment abstenu d'intervenir durant la Révolution, il avait renié l'ancien régime et s'était fait une place dans le nouveau. Peut-être avait-il flairé tout simplement la possibilité d'une carrière encore plus florissante dans le futur pouvoir politique qui naîtra une fois arrivé à destination. Ou était-ce une autre raison plus personnelle ? On disait que sa sœur était également à bord de l'Exode. Les renseignements étaient maigres et le personnage entouré de mystères. Seul homme politique civil des membres de la Réunion, on pouvait honnêtement se demander s'il arriverait à s'imposer parmi tous ces vétérans. Avec l'arrivée du colonel J.F. Hill et du commandant Aurora Menkana, respectivement à la tête des 6e et 7e transporteurs, les participants étaient au complet. On ferma le sas sur un signe de général décembre, tandis que les derniers venus prenaient place dans leur fauteuil. La réunion allait enfin pouvoir commencer. Menkana regardait ses condisciples. L'Exode était là, devant elle. Et maintenant débutait l'autogestion qui allait les amener jusqu'à Antares IV. Les espoirs d'une partie de l'humanité se concentraient ici et maintenant sur E7. Aux côtés du transporteur, allaient et venaient les dizaines de ravitailleurs qui faisaient le pont avec Maman Lolo, la station brillante en permanence de mille feux. Les croiseurs de l'armée Castix sinuaient lentement au loin sur leurs orbites, surveillant d'un œil attentif le déroulement des opérations, tandis que les satellites tournaient encore et encore, relayant leur flot d'informations.
Réalisation, Raoulito et Yann. Écriture, Raoulito, Andropovitch et Arthur. Assistant de réalisation et direction de production, Andropovitch. Composition des musiques originales, montage et mixage, Yann. Mastering, Blast. Narration, Andropovitch. Feel Good, Lauren Deal. Contre-amiral Pophéus, Puff Magic Finger. Ralato Uli, Raoulito. Adenor Kirishi, Anoan. Aurora Menkana, Anoan. J.F. Hill, Raoulito. Ordonnance, Raoulito. Voix du générique, Zizou. Une production de l'association Podchose. Merci au forum Netophonix et à toute l'équipe de Red Universe.
Red Universe. À suivre.
Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.